Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire dite du réseau pédophile d'Angers, un réseau de 66 adultes dont 27 femmes qui ont violé et prostitué au début des années 2000 à Angers 45 enfants. Et je débriefe cette histoire avec vous, Fabienne Lopéou. C'est vous qui, à la brigade des mineurs d'Angers, avez dirigé toute cette enquête et vous êtes aujourd'hui à la retraite. Pardon de vous demander de réveiller encore aujourd'hui ces vieux souvenirs, même si je me doute qu'ils ont marqué votre vie et vous habitent au quotidien.
Ils m'habitent au quotidien, en effet.
Vous y pensez tous les jours ?
Tous les jours.
Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tous les jours ? Qu'est-ce qui vous marque à ce point que vous ne vous pouvez pas, 20 ans après, passer à autre chose ?
Alors, je suis en contact permanent avec Marine, et vraiment, c'est quelque chose de très, très, très douloureux. C'est une jeune femme, maintenant, qui fait preuve d'une extrême résilience. Et je vous laisse imaginer vraiment ce que ça peut apporter dans ma vie.
C'est-à-dire qu'en principe, ça c'est déconseillé, on est d'accord Fabienne Lopéou. C'est-à-dire quand on est commandant de police à la brigade des mineurs, on n'est pas censé voir les victimes à côté.
Non, pas du tout. Alors c'est tout à fait par hasard que Marine m'a retrouvée. Mais vraiment par hasard, donc au niveau de l'enquête, ça a été fait tout à fait normalement. Vous avez évoqué la partie médecin. Je peux vous dire que ça a été un moment très très douloureux, cette partie médecin, parce qu'il a fallu l'examiner sur son corps et ça n'était pas évident. Le médecin m'a demandé d'être présente. Ça a été douloureux, vraiment douloureux, parce que elle n'arrivait pas à se livrer à cet examen médical. Et vous imaginez bien ce que ça a pu représenter.
Oui, ça veut dire que le fait que vous voyez Marine, d'une certaine manière, aujourd'hui encore, traduit le fait que vous ne pouvez pas passer à autre chose.
Non, c'est vrai. C'est très difficile de passer à autre chose. Bon, il faut dire qu'elle a fait ses choix. Donc, son père et sa mère ont été condamnés. Elle les a rayés définitivement de sa vie et elle s'est accrochée à la brigade des mineurs un peu comme si nous étions des sauveurs.
Donc elle s'accroche toujours à vous un peu pour bâtir sa vie.
C'est ça.
Sans dévoiler quoi que ce soit qui pourrait lui nuire, parce qu'en vérité elle ne s'appelle pas Marine, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, elle est en couple, elle est maman d'un petit garçon, elle s'occupe d'enfants, d'ailleurs, et je crois qu'elle est vraiment, vraiment, définitivement marquée par cette affaire.
Mais est-ce qu'elle arrive à être heureuse, parfois ?
Elle arrive, et c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir constater ça. Elle arrive, vraiment.
Ses parents sont sortis de prison, il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps.
Ils ont cherché à rentrer en contact avec elle ?
Oui.
Et ?
Elle a refusé.
Et vous lui avez conseillé de refuser ?
Non, je ne l'ai pas conseillé, c'est son choix. C'est vraiment son choix, je l'ai laissé libre. Elle sait que je suis là, et je le serai toujours, évidemment. C'est son choix, personnel.
Et les autres enfants, ils vous arrivent d'en croiser dans la rue ?
Très peu, c'est la seule. Il faut dire qu'elle est un petit peu le porte-drapeau, excusez-moi de l'expression, elle est un peu le porte-drapeau de ses victimes.
Ouais.
Elle est celle qui a été le plus abusée. Et en pensant à elle, je pense à toutes les autres victimes. J'ai eu quelques nouvelles à travers Catherine Mercier, qui a été...
Votre collègue,
vraiment,
hein.
Oui, extraordinaire dans cette affaire. Vraiment, quelques nouvelles. tous les enfants font preuve de résilience et ils ont fait leur choix. Je constate qu'ils ont fait, je pense, le bon choix.
Alors, ce qui est très, très, très frappant dans cette histoire, Madame Lopéo, c'est que, bien sûr, il s'agit de sexualité déviante, de pédophilie, mais aussi, surtout, il s'agit de misère. C'est-à-dire que, on est quand même frappé que, par le fait qu'il n'a pas pu y avoir une génération spontanée de véritables pédophiles dans le même quartier d'Angers en si peu de temps. Donc, il ne s'agit peut-être pas que de pédophilie.
Alors, c'est vrai, vous avez raison, c'est un quartier d'Angers. Nous avons été mais vraiment stupéfaits d'apprendre. Au départ, nous partions sur une simple affaire de pédophilie. Et dès le début, nous avons été confrontés à 18 enfants, ce qui était énorme, du jamais vu à la brigade des mineurs d'Angers, pour arriver ensuite à tout un réseau. Donc, vous comprenez bien que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Mais est-ce que pour vous, ces 66 personnes-là sont véritablement ce qu'on appelle des pédophiles, c'est-à-dire qu'ils sont attirés sexuellement par des enfants, ou bien est-ce qu'il y a une partie d'entre eux qui se sont lancés là-dedans par bêtise, par faiblesse, par stupidité, par manque total de moralité, par misère?
Non, je pense vraiment que ce sont des gens qui sont attirés par des enfants. D'accord. Vraiment. C'est une sexualité déviante qui est innommable.
Parce que ce qu'il y a de très surprenant dans cette affaire, alors vous, ça a été votre métier pendant des décennies, donc vous allez pouvoir me répondre, c'est qu'il y a 27 femmes. Et moi, j'ai jamais vu d'affaire pédophile où il y a des femmes.
Alors, c'est vrai que c'est une des premières affaires où nous avons mis tellement de femmes en garde à vue. Et je me souviens d'une interview de Madame Elisabeth Badinter qui expliquait que nous n'avons pas l'habitude de mettre des femmes en garde à vue. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, dans notre société judéo-chrétienne, nous avons la vision de la femme protectrice, maman, aimante, protectrice de l'enfant. Or, c'était une des premières affaires où vraiment, vraiment, on était confronté à des femmes qui prostituaient leurs enfants. Je pense à Patricia, notamment. Vous avez probablement lu ses auditions et c'est effarant.
Parce que il y a des femmes qui prostituaient leurs enfants, mais il y en a qui ont participé aux actes sexuels.
Oui.
Sexuellement, je veux dire.
Oui, tout à fait. Par exemple, j'ai en mémoire un couple qui avait leurs enfants placés, deux enfants placés. Vous avez dû voir les...
À la DAS, oui.
Ils avaient des jours où ils pouvaient voir leurs enfants. Ils les prenaient, ils les emmenaient chez Patricia et ils les prostituaient. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, ça.
Mais la femme en question, elle avait une attirance sexuelle pour les enfants ou elle était tellement sotte qu'elle ne voyait pas la gravité de ce qui se passait?
Non, je crois qu'elle avait une attirance sexuelle pour les enfants. Et ensuite, bon, elle ne mesurait pas, hein, parce que vous avez bien vu, il y avait quand même des profits. Alors, il y avait d'une part une attirance sexuelle pour les enfants et d'autre part, l'attrait vers les profits
financiers.
Par exemple, des colis. Ça nous a, à la brigade des mineurs, ça nous a complètement effarés.
Mais vous aviez déjà, je suppose, traité beaucoup d'affaires de pédophilie et d'inceste. Vous aviez déjà vu des femmes qui sont attirées sexuellement par des enfants?
Pas à ce niveau. Nous avions effectivement traité beaucoup d'affaires de pédophilie et d'inceste à la brigade des mineurs, mais jamais en réseau organisé. Jamais.
et impliquant des femmes, jamais non plus.
Alors, une seule fois, à la brigade des mineurs d'Angers, nous avons eu une femme, mais une seule fois. Et là, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel dans ce réseau.
Les parents, quand vous les interrogez, ont-ils le début d'une conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait, ou pas ?
Alors, au niveau de Patricia, oui. Oui. Je me souviens vraiment de l'audition, je ne l'oublierai jamais, cette audition de Patricia, où nous avons compris de suite, la gravité de ce qui avait été fait. Elle avait une certaine forme d'intelligence et nous avons mis le doigt sur cette forme d'intelligence. Et c'est là où elle nous dévoile le réseau de 18 enfants au départ. Vraiment. Impliqué. Et ça reste exceptionnel.
L'audition des enfants, Fabienne Lopéo, bon, c'est une technique à laquelle vous êtes habituée, puisque c'est votre métier d'entendre des enfants victimes. Est-ce que c'est différent cette fois-là ?
Alors, il faut dire qu'à cette époque, actuellement, vous savez très bien qu'il y a des salles d'audition des enfants,
avec des psychologues qui sont là. Hein.
Voilà. À l'époque, nous n'avions pas tout ça.
Vous étiez tout seul ?
Toute seule, avec nos équipes. Et il a fallu qu'on s'organise. Et ça a été très, très difficile. Parce que, vous savez, ce sont des affaires où c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre.
Oui.
Donc, il faut faire très attention, quand on sait que vraiment les auteurs risquent la perpète, désolé de le dire comme ça,
oui.
Mais il faut faire très attention. Et ça a été vraiment difficile. Nous avions juste des petites caméras à l'époque,
oui.
Sur nos ordinateurs, et les enfants ont été entendus, et chez la juge, et chez nous, avec ces toutes petites caméras. Ce sont des moyens qui étaient empiriques à l'époque.
Et qui empêchaient évidemment de devoir leur reposer plusieurs fois la question de ce qui s'était passé. Quoi.
Exactement.
Elle le disait une fois pour toutes. Alors, quand cette affaire vous tombe dessus, vous dirigez donc une petite brigade des mineurs dans une petite ville qui est Angers, est-ce que vous êtes équipé à l'époque pour affronter une enquête titanesque comme celle-là ?
Mais pas du tout. Au départ, donc, nous mettons Patricia et Franck en garde à vue. Pour nous, c'est une simple enquête,
oui.
Si vous voulez. Et à l'issue de l'audition de Patricia...
Vous avez 18 noms d'enfants.
On a 18 noms d'enfants.
Mmh.
Et là, je me dis, mais c'est pas possible.
Comment
18 noms d'enfants, j'ai 4 personnes à la brigade des mineurs, je ne vais jamais m'en sortir. Donc, j'appelle le substitut, et je m'en souviens très bien, je n'oublierai jamais ce moment. J'appelle le substitut, et je lui dis, écoutez, voilà ce qui se passe. Il y a 18 enfants, je ne suis pas équipée pour... faire cette affaire, donc il va falloir que vous saisissiez la police judiciaire ou un autre service.
Oui.
Et il me rappelle quelques minutes après en me disant « Non, vous restez saisi ». Alors, vous imaginez bien que j'ai essayé vraiment de donner cette affaire à la police judiciaire.
Il vous a envoyé des renforts quand même ?
Alors, oui, j'ai eu des renforts par la suite, 8 personnes, parce que tout de suite, nous avons compris que nous étions dans un réseau, et vous savez très bien que dans ces histoires, il n'y a pas de preuves physiques.
Oui.
Donc, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et il faut absolument tout vérifier. Pour tenir une enquête et la mener jusqu'au bout, il faut tout vérifier. C'est un travail colossal, mais vraiment colossal. Donc, on m'a adjoint des gens qui arrivaient de Paris Et ça a été très difficile parce que ils sont arrivés en milieu d'enquête. Il a fallu qu'ils prennent la mesure de cette affaire, et ça n'était pas évident, et qu'ils rentrent dans cette affaire et qu'ils poursuivent. Ils ont fait un travail vraiment extraordinaire, ce qui a permis de faire tenir un procès, parce que ça n'est pas le tout de mettre des gens en garde à vue, de les faire incarcérer. Il faut faire tenir une affaire.
Ouais. Et pour pouvoir arriver à des condamnations, ce qui a été le cas. Je vous remercie infiniment, Fabienne Lopéo, d'avoir réveillé ces souvenirs douloureux pour nous.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.